2014 d'octobre 2024, 10 ans, jour pour jour, depuis le début des massacres des civils dans la région des Beni au nord Kivu par le groupe terroriste IDF. Selon Teddy Katalico, ancien président de la société civile de Beni, on compte plus de 17 000 morts malgré les nombreuses offensives militaires dans cette partie de la RDC. 10 ans après les massacres, 10 ans après, si la menace des IDF s'est réduite, cependant, tous ces efforts n'ont toujours pas réussi à mettre définitivement fin à la violence. Qu'est-ce qui peut expliquer ces massacres à répétition malgré les différentes opérations militaires dans la région? Que faire pour mettre fin à cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 2 octobre 2024. Participe au débat Karine Zazou-Kassivita, députée nationale élue de Beni Territoire. Il est gouverneur honoraire de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union sacrée de la nation. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Aussi avec nous dans ce débat, Omar Kavota, avocat et vice-président honoraire de la société civile du Nord Kivu. Omar Kavota, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Ildefonso Bwakianakazi, j'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Vous êtes aussi avec nous dans ce débat. Vous êtes chercheur à Ebouteli et précisément data manager du Kivu Security Tracker et spécialiste de la question EDF. Ildefonso, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir collaborateur et bonsoir aux auditeurs de la radio Kabi.
À Beni au Nord Kivu, vous nous suivez sur la 92.0 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-kabi.net, sur Canal Plus, Channel 572, DSTV, Canal 867. Vous pouvez suivre également cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Kabi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit, ce mardi d'octobre 2024 marque le 10e anniversaire du début des massacres des civils dans la région des Beni au Nord Kivu. 10 ans d'horreur malgré les nombreuses offensives militaires, d'abord menées par les FRDC seuls, ensuite avec l'appui de la MONUSCO et désormais en coopération avec l'armée ougandaise UPDF. 10 ans après, ces efforts n'ont toujours pas réussi à mettre fin à la violence. Depuis Beni, Papi Martial Moukeba et Dona Madimba nous en dit plus.
Martial Papi Moukeba, bonsoir.
Bonsoir Dona Madimba et bonsoir à tous les auditeurs des radios Okapi.
Vous nous parlez depuis Beni justement. Pouvez-vous nous retracer la chronologie de cette violence qui dure depuis 10 ans aujourd'hui?
Le 16 janvier 2014, les FRDC lancent l'opération militaire Sokola 1, signifia nettoyer, visant à neutraliser les ADF. Cela fait suite à l'enlèvement des centaines de civils par cette rébellion dans plusieurs villages du territoire de Beni. En quelques mois, l'armée réussit à reprendre Medina, à l'époque quartier général des ADF, où résidait leur chef spirituel Djamil Mukulu, aujourd'hui détenu en Ouganda après son arrestation en Tanzanie. Malgré ces succès initiaux, et alors que l'armée annonçait une opération de ratissage censée marquer la fin du phénomène ADF dans la région, ces derniers ont changé de tactique en s'attaquant directement aux civils. Le 2 octobre 2014, dans la soirée, les villages de Mukoko et Kokola sont ciblés par surprise. Des civils sont brutalement tués à l'arme blanche et depuis, la société civile estime que près de 17 000 civils ont été tués, sans compter les nombreux enlèvements et la destruction des maisons, d'écoles et d'infrastructures sanitaires.
Qu'est-ce qui explique que 10 ans après, les tueries de civils par les ADF se poursuivent encore dans la région de Beni?
Il faut tout d'abord rappeler que depuis le début de cette crise, pas moins de 8 généraux des FRDC se sont succédés à la tête de l'opération Sokola 1. Malgré les efforts conjoints des FRDC et des casques bleus de la MONUSCO, puis des armées congolaises et ougandaises à partir du 30 novembre 2021, le phénomène ADF persiste. Depuis environ 4 ans, ces rebelles, désormais affiliés à l'État islamique, ont même étendu leurs actions à la province voisine de l'Ituri. En 2014, après la prise de Médina, l'armée pensait avoir remporté une victoire décisive sans logiquement connaître l'existence d'autres camps stratégiques des ADF comme Kambiyamiba ou Kangarlik, Mwalika, Mapobu 1 et D et d'autres, découverts et conquis par l'armée seulement des années plus tard. Le manque de renseignements sur ces camps, couplé à la capacité des ADF à ne presque jamais communiquer, a rendu la situation plus complexe. De plus, les ADF ont aussi imposé au FRDC un combat asymétrique. L'armée, déployée principalement des unités classiques, peut adapter à ce type de guerre. Ce n'est que récemment, il y a quelques années, que les FRDC ont commencé à utiliser des forces spéciales, des militaires formés à la lutte contre la guérilla et des drones dans leurs opérations. Malgré cela, aujourd'hui, les ADF, opérant en petits groupes et affiliés à l'État islamique, se cachent et bougent dans des forêts de Beni et de l'Ituri qu'ils maîtrisent parfaitement. Ces terrains difficiles compliquent souvent le déploiement des renforts et l'évacuation des blessés, rendant la lutte toujours plus ardue et les opérations militaires complexes et même difficiles.
Martial Papimoukeba, je vous remercie.
Merci Donna Madimba.
Alors, encore une fois, merci Martial Moukeba et Donna Madimba pour ce point par rapport à l'activisme des ADF dans la région de Beni. Je l'ai annoncé en début de cette émission, Carly Nzanzu Kassivita nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir, monsieur le gouverneur honoraire.
Bonsoir, madame.
Alors, je rappelle que vous êtes député national élu de Beni Territoire, gouverneur honoraire, comme je l'ai dit, de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union sacrée de la nation. Aujourd'hui, 2 octobre 2024, 10 ans, jour pour jour, depuis le début des massacres des populations civiles dans la région des Beni, malgré tous les efforts consentis pour ramener la paix dans cette partie de la RDC, on n'a toujours pas réussi à mettre fin à cette violence des rebelles ADF. Comment on peut expliquer cela?
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs de la radio Capi. Parler de 10 ans de massacre à Beni, je crois que c'est raccourcir même le délai, l'historique de ces drames humanitaires qui se vivent dans cette région. Il faut rappeler évidemment que depuis plus de 18 ans, la population de Beni vit les affres des ADF Nalou depuis très longtemps. Évidemment, la séquence des massacres est située dans cette tranche de 10 ans, mais il faut rappeler que le premier massacre n'était pas le 2 octobre. Il faut interroger l'histoire. À Kamango, déjà, au mois de juillet et d'octobre 2013, il y a eu de massacres. On avait même perdu un chef de groupement de Bawissa. Pour vous dire que, effectivement, la situation sécuritaire dans cette région a été bien décrit par votre collègue de Beni comme journaliste, mais comme politique, nous avons aussi deux éléments de réponse, soit des suggestions que nous pourrions donner au cours de cette émission. Il est vrai que la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie impliquerait beaucoup de facteurs. D'abord, pourquoi ça n'a pas marché? Je crois qu'il y a
eu... Pourquoi ça ne marche pas?
Évidemment.
Parce que jusqu'aujourd'hui, ces ADF continuent d'attaquer la population civile, même si leur capacité de nuisance est quand même assez réduite, ils sont toujours actifs.
C'est pourquoi j'ai dit pourquoi ça n'a pas marché, parce qu'il y a des efforts fournis, conjugués aujourd'hui, qui donnent des résultats. Mais l'objectif, évidemment, c'est d'avoir cette région sans groupes armés, sans tuerie. Il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs efforts, donc parler de ces cas, il faut d'abord saluer la mémoire de tous les militaires qui sont tombés sur le front en train de chercher à ramener la paix, mais aussi saluer la mémoire de toutes les victimes. Nous avons constaté, nous comme politiques, parce que je gérais la province, que les ADF ont eu des moments de reconstitution. Il faut avouer qu'il y a eu des relâchements dans le cadre des opérations militaires contre les ADF. Et ce relâchement avait permis ou a permis aux cellules dormantes des ADF de se reconstituer et de commencer les affres contre les civils. Il faut souligner aussi qu'à un moment donné, les ADF ont pris comme objectif les cibles, comme cible la population. Ils ont refusé d'attaquer frontalement les forces armées de la République, ils ont réduit leur stratégie aux attaques contre les civils, ce qui a rendu vulnérable la région jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des efforts. J'ai suivi dans les reportages, évidemment, un système de sécurité aujourd'hui que nous avons mériterait aussi plus de capacitation. Les ADF nous ont imposé ce mode opératoire. Aujourd'hui, s'il faut regarder nos frontières avec l'Ouganda, c'est des frontières très longues, mais des frontières très poreuses. Il nous faut un système de sécurité qui peut anticiper, parce que pour faire la guerre contre les terroristes, il faut investir dans l'anticipation. Et notre système de sécurité mériterait encore plus de capacitation pour anticiper les actes des ADF. Évidemment, dans le perspective de la recherche de la solution, il y a eu des erreurs aussi. À un moment donné, il y a eu une sorte de globalisation dans les analyses sécuritaires dans cette région. On a vu beaucoup de personnalités ou de personnes de ces coins être interpellées au motif qui se liait aux ADF. Après enquête, ces personnes ont été relâchées, ce qui est normal pour des enquêteurs, mais cet aspect a mis à mal les relations civilo-militaires. Pourtant, dans cette recherche de la paix, surtout dans la lutte contre les ADF, il faut avoir un mariage civilo-militaire qui permet un renseignement poussé, parce qu'au fait, ces terroristes, comme tous les groupes armés, ils peuvent aussi utiliser la population civile pour atteindre les objectifs. Et un bon système de sécurité, c'est celui qui investirait dans une approche de proximité avec la population pour qu'il y ait le renseignement.
Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que c'est ça le cas dans la région de Beni? Parce qu'il y a certains observateurs qui disent que aujourd'hui les ADF, on ne sait plus trop distinguer qui est ADF, qui est population civile à Beni.
Non, dans leur,
il y a trop d'infiltration.
Dans leur track, les services qui investissent dans le Syrie, aujourd'hui nous avons les opérations conjointes. On est en train de démanteler le maillot des ADF. Il faut souligner, je l'ai dit, j'ai suivi votre confrère de Beni qui parlait de la région plus compliquée, inaccessible. Parce qu'en fait, le fait qu'on n'a pas aussi beaucoup investi dans l'amélioration des infrastructures, cette inaccessibilité a permis à la sédentarisation des foyers des ADF. Et ces foyers des ADF ont eu l'accès au champ de la population. Ils ont kidnappé tout le temps la population. C'est pourquoi moi, dans mes analyses, dans le cadre de la lutte contre les terroristes, nous avions dit on ne peut pas s'étonner, et jusqu'à aujourd'hui moi je l'ai dit, on ne peut pas s'étonner de trouver quelqu'un de l'Ituri, de Beni dans les rangs des ADF, parce que à chaque opération contre les civils, ces ADF, soit ils kidnappent les enfants, les hommes, tantôt ils tuent les hommes, mais les enfants, ils cherchent à les endoctriner pour grossir les rangs. Et donc cela ne peut pas non plus faire comme si c'est une surprise inattendue pour les services de sécurité et pour ceux qui font la guerre contre les ADF.
Alors, depuis le début de cette crise, Papy Martial l'a dit dans son reportage, pas moins de 8 généraux des FARDC se sont succédés à la tête de l'opération Sokola pour justement neutraliser ces EDF, mais les résultats n'ont pas été positifs. C'est un problème de stratégie.
Il faut d'abord dire que on ne devrait pas analyser ces opérations en fonction des personnalités qui les pilotent. Moi, je pense qu'il faut plutôt analyser en fonction du système de défense et de sécurité mis en place. On peut envoyer n'importe quel général, mais si les ingrédients du système de défense et de sécurité ne vont pas lui permettre d'être efficace, on pourrait toujours lister les personnalités qui passeront de ces côtés. Mais il faut souligner qu'il y a eu quand même des efforts. Lors des opérations pilotées par le pauvre Bauma, on a vu sa détermination et son engagement permettre que les troupes arrivent dans la profondeur. Et c'est pourquoi j'ai dit le relâchement qu'il y a eu après a permis aux cellules dormantes des ADF de continuer à se reconstituer et de faire du mal. Donc il faut toujours une pression militaire sur les ADF pour les empêchant de se reconstituer.
Alors, aujourd'hui, vous avez géré cette province, Karine Zazou. Aujourd'hui, si on posait la question, qui sont les ADF? Qui constitue cette milice ou ces terroristes? Qui sont-ils, les ADF?
Avant d'arriver à donner ma lecture sur ces questions, cette question des ADF, il faut souligner évidemment qu'à un moment donné de l'histoire, la classe politique congolaise, l'opinion, a investi dans un contradictoire qui n'a pas permis à la population de comprendre la dangerosité des ADF. Et les politiciens, à un moment donné, ils ont véhiculé dans la population les doutes sur l'identité des ADF. Il faut souligner que la République démocratique du Congo a toujours été victime des options fondamentales prises par l'État dans la recherche de la restauration de l'État. À un moment donné, il faut souligner que pendant la Deuxième République, le président Mobutu, à cause de ses relations qu'il avait avec le président Déchi Damin de l'Ouganda, avait accueilli à Beni, à Maïmoya spécialement, des résidus de l'armée de Idi Amin, et qui étaient essentiellement des musulmans. Nous avons tous vu ces gens jusqu'en 1997. Le pouvoir à place à l'époque a même pensé faire contribuer les ADF dans la lutte contre la rébellion de l'AFDEL. On a distribué des armes à ces ADF à Beni. C'est encore une histoire récente, déjà oubliée. Et après la suite des événements, nous le voyons, ces gens se sont métamorphosés à cause, évidemment, aujourd'hui, du développement du numérique. Et ils se sont alliés à des groupes terroristes. Mm-hmm. Même à l'époque, je me souviens, les Nations Unies commençaient à douter du débit. Quand la République démocratique du Congo parlait des terroristes, il y avait des voix discordantes. Après, tout le monde s'est mis d'accord avec les évidences que la région de Beni est attaquée par des terroristes. Donc aujourd'hui, nous sommes victimes aussi des options prises à l'époque par la République dans le cadre des relations amicales avec les pays voisins.
Est-ce qu'on retrouve des Congolais aujourd'hui dans les rangs des ADF?
Les ADF recrutent partout. Ils recrutent à Bukavu, ils ne recrutent pas à Beni, ils recrutent à Goma, ils recrutent même à Kinshasa. Ils recrutent dans les pays étrangers parce que tout ce qui sont arrêtés dans le cadre des opérations, ils ne sont pas nécessairement des enfants de l'Ituri et de Beni, mais ils viennent de partout et généralement de l'Afrique centrale.
On vous garde encore dans cette émission, Caroline Zanzo-Kassivita. Le temps pour nous de donner la parole à Omar Kabotake, avocat et vice-président honoraire de la société civile du Nord Kivu. Omar Kabota, disons aujourd'hui, même si le gouverneur m'a corrigé, il dit que c'est plus de 10 ans que cette crise a commencé dans la région des Béni. C'est quand même un anniversaire douloureux, malheureux. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette crise qui a trop duré, crise à laquelle on n'arrive pas à trouver des solutions? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela?
Merci, Madame Kelly. Permettez que je commence par saluer l'honorable Caroline Zanzo-Kassivita et le chercheur Idelfos Bwakyanakazi, ainsi que les fidèles auditeurs de cette émission Dialogue entre Congolais. Et j'ai bel et bien suivi votre correspondant Martial Papi Mukeba qui est revenu pratiquement sur l'histoire et il a peint de façon pratiquement correcte. Et j'ai aussi suivi honorable Carly Zanzo-Kassivita. Mais ce que je dois dire à ce stade, c'est que lorsqu'on suit de loin la situation, la question de massacre des civils, des ADF à MTM, parce que c'est cela maintenant leur appellation, on peut avoir l'impression pratiquement de suivre une histoire, tel un film ou une bande dessinée. Mais nous qui vivons au quotidien ce qui se passe, nous qui subissons ces drames, nous qui voyons la tragédie, nous qui voyons les carnages continus des civils par ces terroristes, nous avons le sentiment de révolte lorsque parfois nous considérons qu'il y a ceux qui minimisent l'ampleur de la menace. Et malheureusement, peu de gens comprennent exactement ce à quoi on fait face dans cette zone avec cette question de ZADF. Par exemple, nous réalisons que nombreux ignorent cette évolution. L'évolution de l'ADF, de son état de rébellion ougandaise jusqu'à sa situation actuelle de mouvement terroriste ADF-MTM, aujourd'hui brache de l'État islamique, Daesh, Syrie et Irak. C'est lorsqu'on doit comprendre la situation actuelle de l'ADF qu'on doit aussi comprendre pourquoi des efforts semblent piétiner ou des efforts semblent tourner au ralenti dans le cadre d'endiguer cette menace. Mais sur le plan historique, bien sûr, l'honorable Carly a dit que il serait mieux de considérer qu'il ne s'agit pas du 10e anniversaire de ce massacre. Oui, je peux croire avec lui parce que si on peut considérer les affres, enfin les tueries des ADF, on peut les situer à bien avant que 2014. On peut les situer, par exemple, il a dit en 2013 avec l'attaque de ces ADF à Kamango, le chef-lieu de la chefferie de Wakalinga, et cette attaque qui a fait des morts de civils et le kidnapping des agents de MSF, des infirmiers principalement, de MSF. Et d'autres attaques qui ont suivi jusqu'à à l'assassinat du chef de groupement dans cette chefferie. Mais également, en décembre 2025, la tuerie de 25 personnes, principalement des pygmées, c'est aussi à mettre à l'actif. Et entre 2010 et 2013, il ne faut pas perdre de vue sur les kidnappings, les enlèvements des civils, qui ont amené à un chiffre d'au moins 893 civils. Dans les lois, on peut citer celui qui était le directeur de l'hôpital général de Ouicha, les trois prêtres de Mbaou et bien d'autres. Mais s'il faut considérer la série des massacres, là, il faut se situer au 2 octobre 2014, et si on s'en tient à observer l'anniversaire lié au début de la série de massacres de ces ADF, réellement, là, on doit se situer au 10e anniversaire, parce que depuis le 2 octobre 2014 jusqu'à ce jour, on fait face à la série de massacres de ces ADF-MTM, et les efforts, réellement, semble prendre du temps pour qu'on arrive à endiguer ce mal.
Alors, Omar Kavota, vous estimez que les efforts semblent tourner au ralenti. Qu'est-ce que pourrait expliquer cela? Est-ce que ce n'est pas c'est parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne tient pas compte ou on ne comprend pas l'ampleur de ce phénomène qui secoue la région de Béni?
D'abord, au départ, il faut situer le problème au niveau de la compréhension et l'identité de l'ennemi. C'est là le point de départ. Les opérations.
On a du mal à vous suivre, Omar Kavota. Votre ligne est très mauvaise. La réalisation va essayer de vous rappeler. En attendant, on va donner la parole à Ildefonso Bois-Kianakazi, chercheur à Yeboutéli et précisément data manager du Kivu Security Tracker et spécialiste de la question EDF. Ildefonso, comment vous expliquez ce phénomène EDF qui perdure dans la région de Béni?
Merci beaucoup, madame, pour la parole m'accorder. C'est que je ne voudrais plus tellement m'attarder sur les éléments du contexte, parce que tous les co-débatteurs qui viennent de parler, et même votre correspondant Béni, ont pu présenter plus ou moins la situation des massacres dans les territoires de Béni, et ces massacres se sont élargis dans les territoires du Rumu, dans les territoires de Mambasa, et actuellement au territoire de Béni, mm-hmm. et même les derniers incidents qu'on a enregistrés dans les territoires de Bafoussin, dans les territoires de la province de la Tchoum. Alors, c'est que, comme on l'a dit, le contexte, il est tellement, ça ne se résume pas seulement à la date du 2 octobre, comme on l'a dit, parce que déjà, les EDF étaient actifs dans la zone un peu plus avant que ça, où on a enregistré certainement des enlèvements de plusieurs civils, des incendies de maisons, des pièges de biens, déjà avant cette date-là. Mais comme l'a précisé Maître Kavota, la série de massacres que nous continuons à enregistrer jusqu'à aujourd'hui, ça a commencé bel et bien à date du 2 octobre. Et à la suite de ça, on a continué à enregistrer beaucoup de morts dans les rangs des civils. Et même aussi, comme le gouverneur honorable le disait, même dans les rangs également des forces de sécurité de la RDC. Alors, ici, moi, je voulais vraiment plus me focaliser sur les efforts consentis, comme on le disait. Et puis, c'était des efforts essentiellement militaires qui ont été déployés par le gouvernement congolais. Et c'est en opérant à la salle opération Sokola 1, et qui, malheureusement, avait déjà commencé dans un contexte qui n'était pas approprié, où trois jours avant le lancement des opérations, il y a eu le colonel Mamadoundala qui a été assassiné, et dont on a suivi le procès. Semble-t-il que les militaires, certains de nos militaires qui étaient complices de cet assassinat. L'opération, la première phase des opérations Sokola 1, qui était sous le commandement du général Bauma Mbamba, a eu plus ou moins un succès sur le terrain, parce que comme le disait même le gouverneur, l'opération Sokola a permis la destruction de plusieurs bastions des EDF, la neutralisation de plusieurs combattants EDF dans la zone et même la récupération des armes et des munitions dans la zone. Ce qui a fait que l'espoir était permis pour passer que la paix pouvait revenir dans la zone. Malheureusement, comme on l'a dit, on a senti relâchement après la mort du général Bauma Mbamba. On a senti relâchement. Là, je me pose la question, est-ce que l'objectif de l'opération Sokola a été changé? Parce que après la mort du général Mbamba, on a enregistré ce relâchement dans l'attaque des EDF. Et après ça, on a vu les EDF revenir avec une forte force de nuisance contre la population. Et là, on a vu le changement de mode opératoire qui était directement, c'était les civils qui étaient ciblés et on a commencé à enregistrer des cas de mort de plus en plus. La faiblesse de ces opérations, c'était que, au lieu que le gouvernement, après un moment, puisse faire l'évaluation de ces opérations militaires, le gouvernement congolais s'est plus penché sur les changements à la tête du commandement de ces opérations. Ce qui fait que, même s'il y avait des opérations qui se faisaient, à dépit des faiblesses qu'il y avait, on ne faisait que changer les commandements, mais sans vraiment changer de stratégie ou de tactique sur le terrain pour essayer de voir comment indiquer ou neutraliser les EDF qui continuaient à massacrer la population. Et cette faiblesse-là a continué à dépit des hommes ou des officiers qui étaient passés à la tête de ces opérations Sokola 1. On a continué à enregistrer des tueries des populations et même l'existence des massacres dans les zones qui étaient jadis sous la paix et qui ne connaissaient pas ces massacres de la population par les EDF. Comme je le disais, au début, les massacres étaient localisés essentiellement dans le secteur de Mwenzori et le secteur de Benimbao et dans une certaine mesure dans la chefferie de Watali. Mais aujourd'hui, il y a déjà presque tous les territoires de Beni qui étaient déjà touchés, notamment la chefferie de Bachou. On a vu les territoires d'Irumu être aussi touchés, les territoires de Mambasa être touchés. Au début de cette année, on a vu les territoires de Lubero également touchés. Et aujourd'hui, presque peut dire l'existence le massacre des EDF, c'est aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est à territoire de Loubert. On a même, comme je le disais tantôt, on a même enregistré la première instruction des EDF à territoire de Bafouassende à province de la Tchoum. Cela montre à globalité la faiblesse et puis les limites des opérations militaires qui ont été lancées sur le terrain. Et moi, je me pose la question, est-ce que nos objectifs avaient changé? Les objectifs qui étaient initialement donnés à l'opération Kokola 1 sous le général Baouma avaient changé lorsque lui il était parti et les autres généraux sont arrivés? Est-ce qu'il y avait un changement des objectifs par rapport à ces opérations militaires qui étaient conduites contre les EDF dans la zone?
Karine Zanzou, vous avez suivi les analyses hein, de Maître Kabota et de Île-Défense. Est-ce qu'on peut parler des faiblesses dans les opérations contre les EDF ou un relâchement, comme l'a dit Île-Défense, avec le feu Mamadou Ndala et même le général Baouma? Il y avait eu un changement, on a eu à neutraliser beaucoup des coins où ces EDF étaient concentrés, mais après c'était vraiment un relâchement.
Ah oui, madame, j'ai moi-même parlé de relâchement dans l'introduction de mon message, mais aussi il faut retenir que s'il faut considérer le mode opératoire des ADF, je crois que même 5 ADF qui peuvent rester dans cette région peuvent se reconstituer, kidnapper les paisibles populations et se faire des troupes pour continuer à faire de massacres. Il faut souligner évidemment que nous ne pouvons pas.
Ils sont plus stratèges que.
Non, il faut d'abord comprendre le mode opératoire. Je vous ai dit au début, quand nous avions assisté aux opérations militaires pilotées par Baouma, c'était pratiquement comme une guerre conventionnelle parce qu'il y avait, des poches localisées, des ADF, et il y a eu des confrontations directes entre l'armée et les ADF. Après, ils ont muté, ils ont changé d'approche pour s'attaquer uniquement à la population civile. C'est pourquoi je pense aujourd'hui, pour réussir dans l'approche de la lutte contre les ADF, il faut intégrer plusieurs scénarios. D'abord, une sécurité civile efficace pour filtrer, contrôler les mouvements des populations. C'est pourquoi je dis, dans les réponses adéquates, il faut investir dans les systèmes de défense et de sécurité pour permettre à notre système de défense et de sécurité de se miter, de se muer à la stratégie de la lutte contre les ADF. Je vous donne un fin.
Et donc pour vous, c'est l'option militaire qu'il faut pour neutraliser ces gens?
D'abord, parce qu'au fait, celui qui a des armes, celui qui s'attaque à la population, on ne va pas les neutraliser par les machettes comme certains le pensent. Il faut d'abord la présence militaire efficace et des services de sécurité efficaces. Évidemment, dans les critiques que nous pouvons faire pour les premières opérations, il y a eu quelque part où on a failli dans la construction des relations civilo-militaires. Il faut le faire. Aujourd'hui, l'armée est en train de faire le plus d'efforts pour améliorer les relations civilo-militaires. Parce que vous ne pouvez pas avoir des informations sur le mouvement de ces terroristes si vous n'êtes pas à bon terme avec la population. Il faut éduquer la population. La population doit comprendre les dangers. J'ai fustigé les différentes contradictions qu'il y a eu en ce temps, parce qu'à un moment donné, certaines opinions ont fait même douter à la population qu'il y a des terroristes. Uh-huh. Nous ne pouvons pas réussir une guerre contre les terroristes si nous ne les connaissons pas. Il faut bien connaître que nous sommes attaqués, que nous avons déjà qui sont prêts à nous tuer pour être efficaces dans la lutte. Je crois qu'il y a plusieurs réponses qu'on peut suggérer dans une émission comme celle-ci. Je ne crois pas être à mesure de donner toutes les réponses que j'avais.
Alors, par rapport aux solutions, on va écouter cet auditeur qui nous appelle de Bukavu, au sud Kivu. On est déjà dans la deuxième partie hein, de notre magazine de ce soir. C'est que faire pour mettre fin à cette situation. On écoute cet auditeur de Bukavu, puis on revient dans ce studio.
Robert Mahomet, je vous appelle à partir de la ville de Bukavu, en province du Sud-Kivu. Ces massacres à répétition, malgré les différentes opérations militaires à Beni, traduisent bien le fait que ces dernières ont atteint leurs limites. Au niveau interne, tout comme au niveau externe, l'ennemi maîtrise parfaitement toutes les stratégies et les techniques de combat des armées régulières congolaises et ougandaises. Toutefois, je pense que seul le vrai dialogue, le dialogue sincère qu'organiserait le gouvernement congolais et ougandais avec les groupes armés locaux et les groupes terroristes ADF pourraient mettre fin à cette situation de sécurité qui n'a que trop duré en territoire de Beni.
Alors, il n'est pas le seul à proposer cette approche dialogue. Vous pensez que c'est possible?
Je n'ai jamais été de ceux qui pensent qu'il faut mettre en avant le plan de dialogue. Mais dans toutes les approches de guerre, il y a toujours la possibilité de réduire les forces ennemies. On peut dissuader certains éléments des ADF à ne plus combattre. Ça, c'est possible. Aujourd'hui, il faut se poser la question...
En quoi faisons ? Vous l'avez dissuadé, comment ?
Aujourd'hui, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va négocier avec les ADF qui se radicalisent de plus en plus ? Nous sommes tous en contact avec le capturé relâché des ADF. Ils vous communiquent pratiquement la même version.
C'est quoi leur revendication ?
Aujourd'hui, tout s'est relâché. Ils vous disent que les ADF nous disent nous allons continuer à tuer pour autant que la population restera chrétienne, par exemple. Ils veulent que tout le monde s'islamise dans cette région. C'est des motifs qu'ils disent. Mais au-delà de ça, il faut regarder l'ampleur du terrorisme dans le monde. Ils sont presque partout dans les pays africains. Il faut plutôt investir dans la lutte contre ces courants terroristes qui est en train de prendre l'ampleur même en Afrique centrale. Aujourd'hui, vous voyez le Sahel, il est perturbé par ces courants terroristes. On ne doit pas se limiter à cette question seulement de dialogue. Il faut renforcer notre système de défense parce qu'en fait, si nous ne sommes pas en forme, à tout moment, nous pouvons revivre la même situation. Je vous ai dit, moi je suis convaincu que s'il n'y a pas de pression militaire régulière, empêcher les ADF d'opérer sur notre sol, nous resterons vulnérables.
On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle de Bounia dans la province de l'Ituri. Ça sera pour vous, Marc Kavota.
Christian Smervé à partir de Bounia. Les massacres des civils dans la région de Beni au nord Kivu perpétrés par les groupes terroristes ADF s'expliquent par une combinaison de facteurs complexes. D'une part, la présence des ressources naturelles précieuses dans la région attire les divers groupes armés qui exploitent les désordres pour s'enrichir. D'autre part, les dynamiques ethniques et les rivalités locales exacerbent les violences créant un climat d'impunité. Malgré les offensives militaires, la coordination entre les différentes forces de sécurité reste insuffisante et les populations civiles, souvent prises entre deux feux, souffrent des conséquences de cette instabilité chronique.
Alors, Omar Kavota, que pensez-vous de l'analyse d'Alonso qui nous a appelé depuis Bounia? Omar Kavota? Omar Kavota, est-ce que vous nous entendez? Alors, je crois qu'on a un gros souci avec sa ligne téléphonique. Il défend votre point de vue sur ce que pense Alonso, qui nous a écrit qui nous a appelé depuis Bounia. Il parle des ressources naturelles précieuses dans la région qui attirent les groupes armés et exploitent les désordres pour s'enrichir.
Alors, ce qui est vrai, comme le gouverneur le disait, c'est... Appréhender le phénomène ADF, c'est toujours complexe parce qu'il y a beaucoup de raisons ou bien beaucoup de faits qui peuvent justifier la présence de ces ADF dans la zone. Certes, il a parlé d'islamisme et de ces groupes-là qui demandent à ce que la population puisse devenir musulman. Et en même temps aussi, de plus en plus, les recherches actuellement vont dans ce sens où on essaie de voir une certaine corrélation entre les ressources de la zone avec cette présence des ADF, où par exemple aujourd'hui, On parle par exemple de l'exploitation du cacao dans la zone. Est-ce que ça aussi, ça exacerbe ce phénomène de ADF dans la zone? Et donc moi, je pense que il est important certainement d'approfondir les recherches dans cette thématique, comprendre un peu quelles sont les raisons qui se tournent autour de cette présence des ADF et de cette persistance des ADF dans la zone, et ça permettra à ce que nous puissions, ensemble, la population, le gouvernement et même les partenaires du gouvernement, de définir les stratégies efficaces pour résoudre ce fléau qui a tardé, comme on l'a dit, plus de 10 ans aujourd'hui. Et aussi, l'autre chose que je voulais souligner, c'est que
nous sommes dans les solutions, hein.
Oui, certainement. Uh-huh. Alors, dans le cadre de la solution également, moi je me disais, la première chose, c'est essayer de définir d'abord les objectifs de chaque acteur impliqué dans cette question des ADF. Aujourd'hui, certainement, comme je le disais, au début, il y avait les opérations Sokola qui étaient essentiellement pour la neutralisation des ADF. Après un moment donné, on a senti ces relâchements. On a vu l'arrivée des militaires UPDF, qui ont pu aider certainement le gouvernement congolais à plus ou moins voir comment amenuiser ou anéantir la force des ADF. Et on a vu les résultats. Aujourd'hui, par exemple, il y a quelques secteurs, notamment par exemple le secteur de Rwenzori qui est maintenant calme, la chefferie de Watalinga qui est calme, et également la chefferie de Bachou. Mais on se pose la question, est-ce que les objectifs, par exemple, des militaires UPDF n'étaient pas réellement de repousser les ADF hors des frontières, parce que certainement on sait qu'il y a eu aussi certains incidents qui ont été enregistrés en Ouganda et qui devenaient aussi de plus en plus une menace pour l'Ouganda. Mais on s'est dit, est-ce que les acteurs qui sont impliqués dans cette question, est-ce que tous nous cheminons, nous avons le même objectif qui est par exemple celui de finaliser, de finir avec cette question ADF, neutraliser tous les ADF qui sont actifs dans la partie. Parce qu'avec, en voyant par exemple les opérations qui se passent, on sait qu'il y a certainement des bombardements des positions des ADF, mais on ne sent pas vraiment des opérations sur le terrain pour le ratissage et anéantir définitivement ces groupes. Et ça fait que les ADF font maintenant le glissement. On bombarde les positions et ils glissent maintenant dans d'autres zones et ils continuent à tuer la population dans les zones où ils partent après avoir bombardé leurs positions. Donc la première chose, c'est de définir vraiment les stratégies ou bien les intérêts, les objectifs de ces opérations que nous faisons. L'autre chose, redéfinir la stratégie opératoire. Comme le gouverneur l'a dit, le mode opératoire des ADF a changé, c'est devenu une guerre asymétrique, et les militaires FARDC, les militaires UPDF doivent s'adapter à ce nouveau mode opératoire qui est une guerre asymétrique. L'autre chose, comme le gouverneur l'a dit également, c'est redorer également la confiance entre la population et les militaires. Parce que certes, comme il l'a dit, il y a eu cet effritement de la confiance entre la population et les militaires, et même parfois avec les politiques. Parce qu'à un moment donné, on a senti simplement les politiques qui se sont mixées, ce qui ont mis beaucoup de doutes dans la compréhension, dans l'attentement de la population par rapport à ce phénomène. Mais en même temps aussi, les militaires qui ont pris parfois des initiatives qui pouvaient effriter cette confiance entre la population et les militaires. Et donc c'est pour cela qu'il faut aussi, c'est important, de redorer cette confiance entre les militaires et la population, pour qu'ensemble, avec ces marins civilo-militaires, qu'on puisse concourir pour voir comment neutraliser ce phénomène qui a vraiment tardé et qui a fait plaire la population de cette zone.
Merci. Alors, il y a beaucoup d'alternantes qui nous écrivent sur la page Facebook de Radio Capi. Ingénieur Soukourou Mazézé Julio, comme solution pour mettre fin aux tueries à Béni, ce n'est pas le dialogue, mais surtout l'action du gouvernement. La négociation n'a pas sa place en ce moment, car ces rebelles ont tué beaucoup de Congolais. Voilà, c'est le point de vue de Soukourou Mazézé qui estime qu'il faut continuer avec l'option militaire. Omar Kabota, est-ce que vous êtes là? Essayez un peu de bouger pour voir si la qualité va s'améliorer. Omar Kabota, vous m'entendez? Alors, Valérien Kisembe qui nous écrit depuis Kinkole ici à Kinshasa, les EDF ne sont pas des extraterrestres, cette situation perdure parce que les autorités politiques n'arrivent pas à bien prendre en charge nos militaires qui sont engagés pour la traque de ces hors-la-loi. On va écouter ces derniers auditeurs hein, qui nous appellent des Beni au Nord Kivu.
Fabrice Ambili depuis la ville de Beni au Nord Kivu. Les massacres à Beni persistent malgré les nombreuses opérations militaires en raison de la complexité et des dynamiques locales, voire même régionales. Vous allez comprendre que l'ADF s'est profondément enracinée dans cette région grâce à des réseaux de soutien clandestin, à la porosité aussi des frontières et à l'exploitation des ressources naturelles qui financent leurs activités. La faiblesse structurelle de l'armée congolaise marquée par des infiltrations, la corruption et un manque de coordination avec les forces internationales compromettent l'efficacité des offensives. Et pour en finir avec cette situation, il faut une approche globale combinant en même temps une action militaire, coopération régionale renforcée, les réformes institutionnelles et programmes de réintégration pour les communautés affectées. La lutte aussi contre l'impunité et l'amélioration de la gouvernance locale sont également les priorités pour restaurer la confiance des populations.
Approche globale, Karine Zanzou-Kassivita, combinant action militaire, coopération régionale, bonne gouvernance.
Oui, il faut souligner que les solutions pour la restauration de l'État ne doivent pas être trouvées dans un sens. Nous sommes dans un pays où les secteurs sont interdépendants. La sécurité dépend aussi de la gouvernance administrative, mais aussi d'autres questions liées à la capacité de l'État à faire face aux défis sécuritaires. Il faut souligner évidemment que chacun peut émettre son avis. Nous sommes dans la recherche des solutions. Mm-hmm. Mais comme politique, comme fils de Beni, pour avoir géré la province du Nord Kivu, j'ai cité mes perspectives de solutions à terme d'abord de renforcement de notre capacité défensive. Si nous ne sommes pas capables de défendre les territoires, nous n'allons pas sécuriser évidemment nos frontières, nous n'allons pas être promptes pour anticiper les attaques que n'importe quel groupe armé peut faire. Il n'y a pas que les ADF, il y a aussi les groupes armés locaux qui ont créé aussi une forte décriminalité autour de cette question de l'ADF. Je suis convaincu aujourd'hui que nous pouvons tirer des leçons dans l'approche que nous avons adoptée au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons des opérations conjointes parce que notre ami a parlé de la coopération régionale. Nous ne pouvons pas traiter la question des ADF sans avoir une coopération avec d'autres pays. J'ai souligné ici que les ADF recrutent en Ouganda, au Kenya, au Rwanda, au Burundi, au Mozambique. Nous devons évidemment, dans le cadre de la coopération régionale, avoir des services de sécurité qui sont à bonne intelligence avec les services de sécurité de ces pays pour couper les circuits de recrutement, non seulement à l'extérieur du pays, mais aussi à l'interne, parce qu'il y a aussi des Congolais qui sont dupés par les réseaux ADF et qui se retrouvent aujourd'hui dans la zone de l'Ituri, soit de Beni, pour massacrer les Congolais.
Alors l'état de siège avait été instauré aussi, notamment pour mettre fin à ce phénomène EDF. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel résultat?
D'abord, il faut que les Congolais comprennent qu'un état de siège n'est pas un dispositif stratégique purement militaire qui va trouver les solutions à tout. Évidemment, ça renforce le pouvoir exécutif des zones concernées, pilotées par les militaires, mais tout est basé sur les systèmes de défense et de sécurité. Un gouverneur militaire, il n'a pas un système de défense qui peut anticiper, qui peut garder les frontières pour que ça ne soit pas poreuse, un système de sécurité qui peut dénicher les infiltrations, je ne crois pas qu'il soit à même de trouver des solutions à tout. C'est pourquoi nous avons des opérations conjointes, c'est pourquoi nous encourageons, moi personnellement comme Eli, j'encourage le gouvernement à continuer à investir dans notre système de défense. Si tout dépendait de moi, moi je dirais qu'il faut même allouer plus ou moins 40% des recettes de l'État aujourd'hui à notre système de défense et de sécurité, parce que nous ne pouvons pas faire de l'économie s'il y a des troubles et des guerres dans notre pays.
La réalisation me signale que Marc Kavuta est en ligne. Vous m'entendez? Vous êtes là?
Oui, Madame Kelly, je vous écoute.
Alors, on a eu beaucoup de soucis hein, avec votre ligne téléphonique. Nous sommes presque à la fin de l'émission, mais on va vous accorder quand même quelques minutes pour donner vos pistes de solutions hein, par rapport au phénomène EDF. Certaines personnes ont une certaine opinion, pensent que ce sera difficile de mettre fin à ce phénomène parce qu'il y a aussi des complicités au niveau non seulement de la population, mais aussi des décideurs.
Oui, c'est vrai que la connexion n'a pas été de mon côté aujourd'hui, mais rapidement, je dois dire qu'il est clair qu'il faut tirer les leçons de certaines erreurs du passé. Par exemple, pour la compréhension de la problématique ADF, il est nécessaire que tous nous soyons unanimes que nous faisons face au terrorisme. Et face au terrorisme, il faut que l'armée, les acteurs politiques, les acteurs socio-économiques, l'élite intellectuelle, tous nous puissions avoir un même langage pour traquer les ADF. Et cela exige une approche globale, comme l'a dit le co-débatteur Carly. Je suis d'avis qu'il faut une approche globale, c'est-à-dire aux côtés de l'action militaire. Il doit être soutenu par tous. Il faut également d'autres approches qu'il faut mettre à contribution, des approches de nature politique. Pas à l'aide d'aller ça, c'est dialoguer avec les terroristes, parce qu'avec lui, on ne peut pas dialoguer. Il faut plutôt chercher à consolider les mariages civilo-militaires en sorte que nous, population civile, nous puissions avoir les langages tels que on doit accompagner les efforts de l'armée. Et c'est ici l'occasion de notre Parlement. On doit mobiliser suffisamment de ressources pour que notre armée soit réellement accompagnée financièrement, logistiquement, afin de faire face à cet ennemi. Il faut aussi encourager l'action diplomatique, mobiliser tous les États de la région, toutes les grandes puissances, comme c'est le cas des États-Unis qui ont déjà reconnu ces terroristes à l'ADF, que toutes les grandes puissances reconnaissent l'ADF ici comme une menace d'ampleur régionale et d'ampleur mondiale, de manière à ce qu'il y ait des efforts aux côtés de FARDC de la part des amis de la RDC de la région. Et je crois aussi qu'il faut décourager les milices locales qui servent de béquilles à ces ennemis qui perpétuent les massacres. Il est clair qu'en décourageant ces milices locales, on peut par exemple revitaliser le PTS, qui est cette stratégie nationale pour le désarmement, la démobilisation, la réaction, de manière à ce qu'il y ait moins d'acteurs locaux qui gèrent l'opération à court, parce que ces opérations doivent aller jusqu'au bout. Il faut aussi encourager les opérations de mutualisation des forces, parce qu'elles ont montré que dans une synergie agissante, on peut mettre fin à ce qui endeuille davantage la région.
Merci Omar Kavota, Hubert Kabea qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Kapi. Les ennemis en profitent parce que, à cause du silence du gouvernement congolais, ils en profitent pour massacrer nos compatriotes dans la partie est de la RDC tous les jours. Je profite pour poser une question au gouverneur honoraire du Nord Kivu. Quelle est la provenance de ces mouvements rebelles? Je crois qu'il a déjà répondu à cette question. Il défonce Bwaki Anakazi. Nous sommes à la fin de notre émission de ce soir. Hein. Est-ce que un dernier mot à ajouter par rapport à cette crise hein, qui perdure dans la région de Beni, ce phénomène EDF, pensez-vous que la solution pourrait ou le calme pourrait revenir dans cette région dans combien de temps? C'est peut-être une question difficile, on ne peut pas estimer, mais est-ce que on peut avoir une solution, des solutions immédiates qui peuvent calmer un peu les ardeurs de ces terroristes?
Alors moi je crois que, comme on l'a dit, c'est pas toujours évident de mettre un chronogramme pour trouver une solution à ce fléau qui a tardé. Mais moi ce que je pense, c'est plus comme je le disais, c'est de redéfinir en gros les objectifs des opérations qui sont sur le terrain et essayer de prendre des mécanismes pour une nouvelle stratégie qui s'adapte à l'actuel mode opératoire de ces EDF. Parce qu'en fait, si, aussi en tant que nous n'allons pas prendre à disposition les réalités actuelles qui se passent sur le terrain, alors nous continuerons toujours à résister à ce genre de cas. Des jours, peut-être encore, nous encore célébrer peut-être notre anniversaire vrai, comme celui-ci. Plutôt, ce qu'il faudrait faire, certes, c'est demander au gouvernement congolais de renforcer encore ces dispositifs. Il y a déjà une collaboration avec l'Ouganda qui a plus ou moins produit des effets, comme je l'ai dit, les populations de Rwenzori, de Bashu et de Watalinga qui soufflent aujourd'hui. C'est le calumet de la paix. Maintenant, c'est intensifier ces genres d'opérations pour voir comment endiguer définitivement cette question dans la région. Et comme on l'a dit, on sait déjà la faiblesse de manière globale pour notre système de sécurité, comme l'a dit le gouverneur honoraire. Et il faut vraiment que le gouvernement congolais investisse énormément pour renforcer ce système de défense pour que nous puissions avoir une armée réellement compétitive, capable de défendre la population et l'intégrité territoriale de la RDC.
Merci. Ildefonse, en 30 secondes, monsieur le gouverneur, monsieur le député, aujourd'hui.
Ah oui, moi je voudrais dire que l'espoir est permis. Nous ne devrons pas baisser les bras. Il faut encourager le gouvernement à maintenir l'effort, mais aussi la population à continuer à soutenir les efforts du gouvernement. Aujourd'hui, je pense que si nous continuons à mettre la pression sur le foyer de ZADF, nous pouvons complètement les éradiquer. Il faut évidemment, dans la suite, éviter ce qui a été fait. Quand on a dégarni l'ensemble des territoires de Beni, au motif qu'on a eu un succès contre les ADF lors des attaques pilotées par le général Bahouma, de pauvre mémoire. Je crois que l'espoir est permis, comme je venais de le dire. Nous devons renforcer la sécurité de proximité. Il faut que tout le monde qui vit dans cet espace comprenne que c'est notre sécurité qui est en jeu. Il faut être agent de renseignement dans nos villages, dans nos villes, pour que la police et l'armée soient efficaces pour empêcher les attaques des Andes.
Jerry Sungu, qui nous suit depuis Lubumbashi dans la province du Katanga, la piste, la solution est qu'on se mette autour d'une même table et qu'on négocie. Les forces armées de la République ont appliqué tous les moyens, mais les choses n'arrivent pas à changer. Au lieu que les massacres soient perpétuels dans la région, quand on parle des massacres, on voit automatiquement la perte en vies humaines. Essayons un peu un autre système pour trouver une solution à ce problème. C'est un auditeur qui nous écrit depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aider à préparer ce magazine. Guimaté, Donna Madimba, Alain Goy, Dieudonné Nyangasa, Jonathan Falani qui était derrière la caméra, présentation et coordination, Kéline Kouté, Martin Sebouchangoué a supervisé ce programme. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.